Un autre monde.
Un autre monde. Des portraits sonores réalisés par le journaliste nomade Richard Federman. Aujourd'hui, la sagesse d'aimer.
Je n'avais pas d'argent, j'étais à la rue avec deux enfants en bas âge. Et j'avais été expulsée en quelque sorte par un propriétaire malveillant d'un immeuble. Et finalement, cette expulsion qui avait été assez tragique, en plein hiver, enfin voilà, on savait pas où loger, enfin c'était... Voilà. Et en fait, cette expulsion m'a rapporté un peu d'argent. Et si je dévoile cette anecdote, qui est plus qu'une anecdote, qui est pour moi une philosophie de vie aussi, c'est parce qu'un malheur souvent va apporter quelque chose d'extraordinaire. En fait. Et donc le malheur de cette expulsion m'a apporté pour la première fois de ma vie un peu d'argent. Et avec cet argent, je me suis dit, maintenant je veux un toit. Pour mes enfants et pour moi. Je ne veux plus qu'on m'expulse. Et j'ai monté un dossier à la caisse d'épargne pour essayer d'acheter l'appartement le plus pourri de tout Paris dont personne ne voulait, donc qui était le moins cher, où le plafond ne tenait pas, enfin il était bombé, le sol on voyait chez le voisin, enfin c'était une catastrophe. Mais c'était le seul qu'avec cette petite somme d'argent due à l'expulsion, je pouvais apporter cette somme en apport personnel et prendre un crédit pour la première fois de ma vie sur 25 ans, mais bon, voilà. Donc j'en étais là, et puis la banque m'a dit « Non, vous n'êtes pas vraiment rassurante, donc on va pas vous prêter l'argent si vous ne rajoutez pas 20 000 francs. » Pour la première fois de ma vie aussi, j'ai appelé ma mère, qui avait épousé la 8e fortune d'Allemagne, mon beau-père, donc, ancien nazi et abuseur devant l'Éternel, à qui je n'ai jamais rien demandé, mais là, bon, il manquait 20 000 francs pour réaliser justement mon rêve d'avoir un toit. Et j'ai demandé, j'ai osé demander à ma mère qu'elle demande à son mari. Et voilà, tout le dossier était monté, tout était prêt, on attendait ces 20 000 francs, vraiment, je dormais plus la nuit, voilà, on n'avait pas où loger aussi, hein, en attendant, donc c'était très 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 important. Et puis le téléphone sonne et ma mère me dit, bah écoute, ton beau-père a bien réfléchi et on ne te sent pas capable de devenir propriétaire, donc tu n'auras pas les 20 000 francs. Et ça faisait 6 mois que je travaillais sur ce dossier, sur vraiment que j'économisais chaque sou, qu'on ne mangeait pas à notre faim, que... Voilà, et c'était tout à coup cet homme très très riche qui avait fait partie de ma vie et qui refusait ses 20 000 francs parce qu'il jugeait que je n'étais pas capable de gérer un crédit, un appartement. Et je suis sortie dans la rue, je ne pouvais pas rester chez... j'étais chez un de mes élèves qui nous hébergeait à l'époque. J'enseignais la philosophie à ce moment-là. Et j'ai marché dans Paris, il pleuvait des cordes. Et je pleurais tellement que je ne voyais pas du tout où j'étais. Et en fait, j'ai marché longtemps parce que je suis arrivée du 10e arrondissement de Paris jusqu'à la rue Monge. Et j'ai vu la plaque rue Monge à travers mes larmes. Et puis tout à coup, j'ai vu une enseigne qui disait « Faites-vous du bien ». Et c'était tellement incroyable d'entendre cette phrase dans cette douleur, mais je n'étais plus qu'un sac de douleur, de la tête aux pieds, parce que tout m'était enlevé. Et ma propre famille, finalement, me mettait dehors. mais au sens propre, quoi. Et je suis rentrée. Je ne savais pas ce que c'était, ce magasin « Faites-vous du bien ». Mais je suis rentrée, j'ai vu un guichet, j'ai compris à travers mes larmes, il y avait quelqu'un derrière le guichet qui m'a dit « Qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Qu'est-ce que vous désirez comme soin ?» Alors j'étais paniquée parce que je ne savais pas où j'étais. Et je regarde, je dis « Mais vous avez une carte ou quelque chose pour les soins ?»« Oui, oui, regardez, soins du visage. » Massage, nettoyage. Alors j'ai dit, bah, ça c'est très bien, un nettoyage du visage. Donc je comprends vaguement que je suis chez une esthéticienne. Moi je n'y étais jamais allée, donc c'est la première fois de ma vie que je rentre chez une esthéticienne dans de drôles conditions. Elle m'allonge sur une table. Elle s'attaque à mon visage et moi je pleure, et je pleure, et je pleure, et je ne peux pas m'arrêter. Et elle est là en me disant, là je mets du romarin, là il y a une vapeur, vous sentez cette odeur de thym, c'est très bon pour la peau. Et moi je pleure, et je pleure, et je me dis, mais le thym, le romarin, mais j'en ai rien à faire, je suis en train de mourir sur cette table en fait. Et qu'est-ce que je vais dire à mes enfants, à qui j'ai dit déjà qu'on allait être propriétaire et qu'on aurait un toit. Et je lui parle à cette femme. Et je lui dis mon désarroi, je lui dis l'horreur que je traverse. Et je lui dis que ces 20 000 francs me sont enlevés aujourd'hui et que je ne sais pas comment je vais faire en sortant et qu'il pleut. Et que... Voilà. J'ai pas de jugement à attendre d'elle. Je ne la connais pas, elle ne me connaît pas. Donc je peux tout lui dire. Tout. Et je dis tout. Voilà. Et elle me dit à un moment, le soin est terminé. Et je me lève et je vacille tellement j'ai pleuré. Et je retourne derrière le guichet, je lui dis combien vous dois-je, elle me dit 25 francs, donc je lui dis bah, je vais faire un chèque parce que je n'ai pas de liquide, oui oui bien sûr, et je fais mon chèque, et avec ma main qui tremble, je reconnais à peine mon écriture, j'écris 25 francs, je signe, et sur le comptoir, je glisse donc mon chèque vers cette femme que j'ai à peine regardée en fait, parce que j'ai pas pu être attentionnée en fait. Et voilà, et je lève la tête et je dis ça ira, c'est bien écrit. Et elle regarde pas le chèque, elle le fait glisser vers elle et elle en fait glisser un autre vers moi. Et je prends le chèque et elle me dit « Ne le regardez pas, vous regarderez dehors. » Et je sors et c'était le moment, voilà, c'était le soir et tout à coup la lumière s'est allumée, la lumière des réverbères s'est allumée. Et donc je vais au réverbère parce qu'à travers mes yeux sont tout rouges complètement et je vois pas grand chose, il pleut. Et j'ouvre le chèque et c'était un chèque de 20 000 francs. Et je me retourne et elle avait tiré le rideau métallique. L'enseigne était éteinte. Et je suis rentrée chez moi sans comprendre en fait. Complètement éblouie. J'ai pas dormi de la nuit. Au matin, je suis allée à la banque. Et j'ai donné le chèque de 20 000 francs et le banquier était très surpris en disant « Ah, ben on ne vous attendait plus, on allait clore le dossier. » Et j'ai eu mon crédit et j'ai eu mon toit et cette femme est devenue une amie.
Thank you.
Voilà. Bon, ça me fait aussi beaucoup, beaucoup penser à ma babouchka, ma grand-mère russe, dont la mère, c'est-à-dire mon arrière-grand-mère, a quitté la Russie en pleine révolution d'octobre en refusant de monter sur le bateau sans sa machine à coudre. Et donc cette machine à coudre, aujourd'hui elle est chez moi, ici à Mirabel. Mais cette machine à coudre qui venait de Sébastopol en Russie, qui a fait tout le circuit des Russes qui fuyaient la révolution, qui est arrivée à Bizerte, et tout ça, c'est cette machine à coudre qui m'a permis de naître en quelque sorte, qui a permis à ma mère de naître et à moi, parce qu'on avait, on était tellement pauvres que si on n'avait pas eu cette machine à coudre, on serait mort de faim. Donc mon arrière-grand-mère, que je n'ai pas connue, j'en ai pas le souvenir, a transmis à sa fille, donc ma grand-mère, le fait de coudre. Et donc pendant des heures et des heures de mon enfance, je la voyais épingler ce qu'on appelle les patrons, voilà, où elle créait des robes à partir de tissus, de récupération, de rideaux, de choses, parce qu'elle n'avait pas les moyens d'acheter du tissu. Et donc elle me disait, Zarina, Zarina, elle parlait toute seule, mais comme j'étais à côté, elle s'adressait à moi en quelque sorte, et moi je buvais ses paroles, regarde, là où on va mettre l'épingle, en fait, c'est comme un bateau, tu vois, on crée un chemin sur le tissu et le bateau, il va prendre un cap. Et donc, les épingles, l'une après l'autre sur le patron en papier journal, parce que le tissu était en dessous, mais il y avait d'abord le papier journal, et bien, ça créait comme ça une cartographie qui me fascinait bien plus qu'une map monde, parce que c'était un bateau qui allait dans des endroits extraordinaires et tout à coup qui allait devoir, quand il serait sur le tissu, ce dessin-là, se heurter à un bouton, par exemple. Et le bouton, ça devenait une île. Et pour moi, enfant, ces épingles, c'était... Alors c'était la liberté, mais c'était la liberté au sens propre, parce que comme je l'ai dit, on n'aurait pas mangé sans ces épingles. Mais c'était aussi l'apprentissage d'une autre forme de liberté. C'est que le chemin, il se fait. Il se fait sur le tissu. Il se fait quand on s'arrête au bouton, on s'arrête. Ça veut dire une pause dans le chemin. Et que la vie, c'est ça, c'est une série d'épingles sur un grand patron dont on ne connaît pas l'ensemble, et qu'on suit ce chemin. On n'est pas épinglé soi, parce que on se ferait un chemin en suivant ces épingles avec leurs petites têtes rondes, et c'est comme des balises au milieu de l'inconnu. Et vivement un bouton pour qu'on se pose, qu'on s'arrête, qu'on regarde autour de soi. Et une fois qu'on est reposé sur l'île bouton, on peut repartir. Et peut-être, avant de mourir, on comprend le grand patron et le grand voyage qu'on a fait, ou pas. Ça, c'est un mystère, je ne sais pas encore.
C'était la sagesse d'aîné. Un autre monde. Des portraits sonores réalisés par le journaliste nomade Richard Federman.
Un autre monde.